locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du pédalo ce soir, le texte sur le droit à l'aide à mourir a franchi l'étape de l'Assemblée nationale. Adopté par 305 voix contre 199, cette réforme sociétale portée depuis 2022 serait, si elle aboutit, la plus importante depuis le mariage pour tous. Mais c'est quand la fin de vie? Et ça veut dire quoi aider à mourir? Quid des soins palliatifs? Eh bien, on en parle dans le pédalo avec deux membres de l'association Djal Malvé, jusqu'à la mort, accompagner la vie. On écoutera ensuite un morceau de Sidji Bess qui est en concert ce soir à la maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin. Sidji Bess, membre de l'équipe espoir du Shabada, un vrai grain de voix, pop soul, qui entremêle espagnol et anglais. Vous savez tout alors, ajustez votre gilet de sauvetage, c'est parti, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
J'ai dit ensuite, mais en fait, on va commencer par ce morceau de Sidji Bess, qui après une release party réussie au 4 il y a quelques jours, joue ce soir de nouveau dans la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin pour vous présenter son nouvel EP « I Thought I Was Strange ». La place est à 13€, il en reste. Pour vous donner un peu l'eau à la bouche, je vous propose qu'on écoute Yuvia sur Campus.
Right now me siento solo. I should be writing, pero lloro. A long day of rain that never seems to end. I end up smothered by this deep smoke that keeps me from seeing color. I end up smothered by this deep smoke that keeps me from seeing color. I'm trying to get it up. Creer que todo podría ser mejor. I'm afraid of getting stuck in my doubt, where everything is a blur. I need you. Need you. I need you. Need you. Baby, I really love my past. I thought I was stronger, but I'm not. So far, I thought I'd get it better, but I'm not. Lately, my thoughts were hard. You held my hands, you kissed my tears. Save me again from what's eating away at my heart.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Voilà, on vient d'écouter Yuvia sur campus de Sidi Bess, donc en concert ce soir dans la maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin. La loi sur le droit à l'aide à mourir a fait couler beaucoup d'encre. Elle a donc été adoptée par l'Assemblée nationale par 305 voix contre 199. Mais quand on parle fin de vie, on parle de quand ? Martine Allais et Eliane Brion, bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de Radio Campus Angers. Jal Malvé a publié dès novembre 2024 un communiqué statuant sur ses positions concernant les lois sur la fin de vie. Vous expliquez notamment dans ce communiqué que les désirs de vie et les désirs de mort sont mêlés et fluctuants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors, je pense que, vu mon expérience, quand on arrive en fin de vie, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. Enfin, on veut des choses et puis on n'en veut plus. C'est un petit peu la ligne de crête, en fait. C'est ce qu'expliquait Janine Pillot, une psychologue, qu'en fait, un patient qui se sait en fin de vie, il ne faut pas qu'il plonge dans le désespoir et il ne faut pas qu'il plonge dans l'espoir. Donc, il est sur la ligne de crête. Et en fait, c'est un petit peu ça. Donc, on a des gens qui vont nous parler de leur mort, qui savent très bien, qui vont semblent l'accepter, et puis qui vont être dans un désespoir profond. Je pense que, c'est un petit peu ça. Ils fluctuent dans leurs émotions, ils fluctuent dans leurs pensées, et voilà, en fait.
On peut expliquer ça. Et cette fluctuation, elle s'explique comment ?
Mais je pense que c'est tout à fait... chez tous les êtres humains, c'est comme ça. Hein. Pas simplement en fin de vie. Hein. Je pense que... dans la vie de tous les jours, c'est comme ça aussi. Hein. Je pense que
c'est inhérent à la constitution humaine, d'être, quand on est en souffrance, de voir la vie plutôt du côté de la mort, du côté du manque de sens, du manque à être. Hein. Et quand on va mieux, eh bien, on va vers le désir. Et en fait, un peu, c'est la mission de Jal Malve, hein, c'est d'entretenir le désir et d'être là de ce côté et non pas d'être du côté de la mort.
Une question très intéressante que vous soulevez, est-ce que vous appelez le déni de solidarité ? Je vous cite, « Donner un choix équivalent entre mort provoquée et soins palliatifs, c'est envoyer aux plus vulnérables et aux plus vieux le message que leur mort anticipée est légitime, qu'ils peuvent la choisir, qu'ils ne comptent plus pour la société. »
Ça me touche beaucoup. J'ai entendu et vu il n'y a pas longtemps un témoignage de quelqu'un d'handicapé, jeune, et qui témoigne de ça justement, et qui dit qu'effectivement ça légitime le fait qu'il n'est plus utile et qu'il peut envisager de raccourcir sa vie. Or, la présence de quelqu'un, son sens à la vie, ne dépend pas de son état de santé ni de son état de fragilité. Donc c'est d'accepter la fragilité de chacun, et jusqu'au bout, en fait. Et le fait d'accepter de mourir et d'envisager ça pour les personnes, c'est mettre cette question à mal.
Pourquoi est-ce qu'ouvrir l'aide à mourir entraîne une telle pression sociale sur les personnes les plus vulnérables ?
Question. Alors moi qui étais soignante, je n'ai jamais vu... là, on parle beaucoup de la dignité des gens, effectivement. Alors, je te rejoins un petit peu, Martine. En fait, les gens âgés à l'hôpital, ils nous disent souvent, mais de toute façon, à quoi je sers ? Déjà, le fait d'arriver à la retraite, souvent, on n'est plus là socialement. On n'apporte plus rien à la société. Et au contraire, on a l'impression que, du coup, on donne des dépenses à la société. Et je pense que c'est ça. Et la dignité, parce que, il faudrait, en fait, mourir, riche, jeune et en bonne santé, quoi. Mais c'est pas du tout ça, la vie. Et en fait, moi, j'entends beaucoup ma maman très âgée qui dit, mais faudrait pas vieillir. Mais je crois que c'est une chance de vieillir, au contraire. Et c'est dans nos yeux, à nous, de bien portants, que se voient les autres aussi. Et si, effectivement, on leur envoie une image comme quoi, ils ne servent pas à grand-chose. Voilà.
Et en plus, vous parlez des enjeux économiques autour de ça.
Alors ça, c'est une question d'éthique, de mon point de vue. Ouais, c'est vraiment une véritable question d'éthique. Il y a des enjeux et des conflits des conflits, à mon avis, hein, donc de sociétés qui se positionnent pour la fin de vie. Effectivement, ça coûterait peut-être moins cher d'accompagner l'euthanasie, par exemple. Mais il s'agit avant tout d'accompagner les soins palliatifs et le développement de l'accompagnement des personnes dans leur fragilité. ça pose une véritable question de fond.
Vous parlez dans ce communiqué de remise en question de la fraternité.
Oui, ben c'est ce que je disais un petit peu en parlant de dignité. Enfin, moi, fraternité, dignité, pour moi, voilà. C'est de la personne, c'est une personne jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, qu'elle soit dans le fond de son lit, qu'elle parfois ne parle plus, mais c'est toujours une personne, une personne à qui on doit tout le temps parler. Même moi, quand je faisais les soins à des personnes qui étaient en fait non communicantes, on leur a toujours parlé, on s'est adressé à elles comme à des personnes. Et c'est ça que je crois que. La société a du mal à voir, en fait.
Dans ces lois-là dont on parle beaucoup, on parle d'aide à mourir, et vous pointez du doigt une confusion, puisque c'est présenté, selon vous, comme un soin, alors que vous qualifiez ça de rupture de soin.
Alors, moi, je pense que d'abord, c'est les mots, mais l'aide à mourir, quand on travaille en soins palliatifs, on aide les gens à mourir. On aide les gens à mourir en leur procurant...
Qu'est-ce que ça veut dire aider les gens à mourir?
Alors, justement, c'est leur procurer un maximum de confort. Voilà. Mais c'est pas pour l'aide à mourir, c'est pas uniquement faire une injection, quoi. C'est pas ça l'aide à mourir. L'aide à mourir, c'est vraiment être là pour la personne. On est des êtres biopsychosociaux et en fait. On les aide sur tous les plans. Cici Sanders, qui était la pionnière des soins palliatifs, disait qu'en fait, il n'y avait pas que la douleur physique. Donc, on traite la douleur physique, on essaie de traiter la douleur psychologique, on traite la douleur sociale aussi, parce que ça, c'est important, et on traite la douleur spirituelle. Et dans ce Moi, je pense que dans ce sens-là, on aide à mourir les gens, puisqu'on va les accompagner jusqu'au bout.
Et quand vous dites « on aide les gens à mourir », c'est dans le cas des soins palliatifs et de l'accompagnement
que vous proposez avec Jalmal. Tout à fait. Moi, je pense qu'en fait, ils ont mis cette aide à mourir parce que c'était effectivement pour ne pas mettre le mot de... peut-être de
suicide assisté et euthanasie. Oui,
d'euthanasie.
C'est pointé du doigt régulièrement.
C'est vraiment jouer sur les mots, voilà, pour moi.
Moi, je dirais que notre mission, elle est plutôt d'aider les gens à vivre... et d'accepter et d'intégrer la mort dans la vie. Et justement, c'est un abandon que de valider la fin de vie par une aide à mourir. C'est un abandon en donnant pouvoir à la mort. Enfin...
Et en même temps, ces questions-là, elles sont plutôt inhérentes à la société. Il y a quelques députés qui ont comparé ces textes de loi à celles de l'IVG ou du PACS, des textes qui ont accordé des nouveaux droits fondamentaux. Là, vous considérez, vous, que ce n'est pas du tout la même chose ?
Bonne question.
Ouais.
Parce qu'on accorde de nouveaux droits, on n'impose pas, c'est pas une obligation, c'est des nouveaux droits, une nouvelle possibilité, une nouvelle ouverture.
Enfin, je pense que de toute façon, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un médecin, qu'on n'a pas besoin de loi pour soigner les gens, en fait. Enfin, je veux dire, on doit mettre des garde-fous, hein, pour certaines choses, mais c'est pas la loi qui va nous faire soigner les gens, en fait. Hein. De toute façon, on est là, et les bénévoles seront là, et les accompagneront jusqu'au bout. Enfin, je trouve que c'est... Je ne sais pas si on peut mettre tout le monde, tout ça dans le même panier. Pour moi, c'est un peu compliqué, tout ça.
Pour moi, il y a toujours une question aussi de singularité.
Ouais.
Vraiment, c'est une... Ça, c'est toujours pratiqué, l'aide à mourir, je pense, dans certaines situations. Mais c'est une singularité. Ça se jouait entre le corps médical, la famille et la personne. Et légiférer cela, ça le rend...
Mais c'est une manière aussi d'accompagner les soignants, non, que de le faire entrer dans la loi, plus que de les laisser seuls face à l'illégalité de ces pratiques qui existent pourtant.
Moi, je pense que oui, j'ai connu effectivement parce que quand j'ai démarré dans le métier, je pense des euthanasies cachées parce que on n'avait pas les moyens justement pour soulager et la douleur physique et la douleur psychologique des gens. Alors, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées. Je pense que depuis quand même, notamment les nouvelles lois, je pense que ça se passe beaucoup mieux. Enfin, moi, dans ce que j'ai connu à l'hôpital, quoi, en fait. Avec tous ça va très vite, hein, la science, les nouveaux médicaments, mais tout va très vite, hein, au niveau des antalgiques. Et puis, on a aussi découvert que c'était pas qu'une question d'antalgique, il y avait aussi plein de choses à mettre en place autour du patient qui était en fin de vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de psychologues que quand moi j'ai commencé à travailler. Il y a aussi, on met des choses en place comme la socio-esthétique. Enfin, il y a plein
c'est
de choses
qui se. C'est quoi la socio-esthétique ?
Alors, en fait, ce sont des esthétiques, enfin, des personnes qui sont esthéticiennes à la base, mais qui en fait refont une formation qui dure à peu près un an et vont travailler auprès de personnes en difficulté. Alors, c'est pas que dans les hôpitaux, c'est peut-être les prisons, ça peut être aussi auprès de gens vraiment avec des gros problèmes familiaux, quoi, en fait. Voilà. Dans des associations.
Et donc, est-ce que vous avez l'impression, parce que en fait, depuis tout à l'heure, on parle d'aide à mourir, on parle, nous non plus, au cours de cet échange, on ne parle pas de suicide assisté ou d'euthanasie. Bon, dans ces textes de loi, il y a aussi un texte de loi sur les soins palliatifs. Est-ce que vous avez l'impression que cette loi sur la fin de vie, sur l'aide à mourir, c'est une manière de mettre un peu sous le tapis la question du manque de moyens accordés aux soins palliatifs?
Alors, sans faire de politique, j'ai trouvé très judicieux de séparer ces lois en deux aspects, de considérer le développement des soins palliatifs, donc sur une décennale, je crois, hein, c'est ce qui est prévu, et de séparer le sujet en deux pans. Parce qu'il y a véritablement, qu'il y a des départements qui sont vraiment démunis, et là nous revenons à une équipe de la journée régionale des soins palliatifs qui a eu lieu en Mayenne, donc la semaine dernière, où il y avait donc plus de 500 professionnels qui étaient là, quelques bénévoles dont je faisais partie, où donc on a entendu des témoignages magnifiques d'accompagnement, de projet de vie jusqu'à la fin de la vie des personnes qui étaient accompagnées. Et donc on entendait aussi un flagrant déficit de moyens dans certains départements, dont la Mayenne et d'autres proches également. Donc oui, je trouvais judicieux que ce soit séparé, justement pour ne pas faire d'amalgame.
L'amalgame, je pense qu'il est effectivement pas fait. Pour autant, il n'y a pas plus de moyens pour les soins palliatifs.
Espérons qu'il y en ait davantage.
Est-ce que c'est, donc, cette loi autour de l'aide à mourir, c'est pas une manière de camoufler le fait qu'il n'y en aura pas davantage?
Je sais pas. Je pense que c'est aussi c'est un phénomène de société aussi. Je pense que il y a beaucoup de pays, notamment l'Espagne, dans les derniers arrivants, dans ce, voilà, le Portugal, des pays qui en fait qui ont maintenant le, enfin qui, ouais, qui du coup pourtant des pays très catholiques qui, en fait, prônent pour l'euthanasie. Et ça y est, maintenant, l'euthanasie est entrée dans leur, chez eux, quoi. Je ne sais pas, je pense que c'est... j'arrive pas, enfin, j'ai du mal à comprendre. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est uniquement économique. Je pense qu'il y a aussi ce fait de société, de se dire, on va se mettre à la page comme tout le monde, un phénomène de société. Je pense que c'est peut-être aussi ça. Après, je pense qu'il y a effectivement des gens pour qui c'est compliqué, notamment, je pense à ces gens qui ont des maladies neurologiques dégénératives. C'est beaucoup eux, en fait,
oui, parce
qui militent pour...
Parce que quand vous dites phénomène de société, c'est comme minimiser, c'est comme si c'était une mode...
Je veux pas minimiser parce que je sais aussi la souffrance de ces personnes-là. Donc, ils savent très bien, quand on leur donne le diagnostic, qu'il n'y aura pas de guérison possible pour l'instant. Et ils savent très bien comment ça va se terminer leur vie. Et du coup, de se dire qu'on peut les aider à mourir, je pense que ça peut aussi les aider à vivre, en fait, hein, quelque part.
Ouais, je peux témoigner là en tant qu'accompagnante bénévole, hein, que le fait de savoir que c'est possible, donc c'est envisagé comme question quand les patients le demandent, hein, seulement, hein, donc ça ne vient jamais en suggestion. Le fait de savoir que c'est possible, c'est envisagé, que c'est accepté après donc une décision collégiale, et puis on voit la personne qui recule l'échéance. Donc le fait de le savoir, ça lui donne comme une capacité de se saisir de son libre arbitre et de dire je peux le faire si c'est plus tenable, mais je vais encore me saisir de ce qui reste à vivre là, maintenant. Et c'est ce qu'on voit la plupart du temps.
Et c'est là où c'est intéressant, cette nécessité de légiférer dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça entre dans la loi, c'est comme s'il y avait une sorte... c'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est comme s'il y avait une sorte d'incitation légale à le faire? Parce que là, j'ai l'impression, moi, que c'est plutôt une ouverture de droit plutôt qu'une incitation. Mais j'aimerais bien avoir votre réaction.
Je pense que, enfin, les gens auront cette possibilité, effectivement, de demander. Mais après, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Je ne sais pas. C'est peut-être, une ouverture de droit. Mais Je suis persuadée que tant qu'on n'est pas à la fin de sa vie, on ne sait pas comment on fera, en fait. Je te rejoins là, sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait effectivement une maladie de Charcot, qui du coup était inscrit en Suisse, en fait, et qui n'y est jamais allé, parce que, voilà, entre ce qu'on a envie de faire, parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'espoir de guérison, et là, du coup, pour ces maladies, c'est ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas d'espoir de guérison. Eh bien, c'est l'espoir de se dire, eh bien, quand je voudrais plus, je pourrais mettre fin à ma vie. Et puis on attend, et puis finalement, comme on disait tout à l'heure, en fait, les gens sont tellement ambivalents, et jusqu'à la fin, ils sont ambivalents. Et du coup, ils le feront ou ils le feront pas. Mais ça leur donnera la possibilité, effectivement, de le faire.
J'aimerais, enchaîner avec une question qui m'est venue. Quand on parle de fin de vie, en fait, on parle de quoi? C'est quand la fin de vie?
Ah, excellente question. Ouais.
Est-ce qu'on peut être en soins palliatifs et ne pas être en fin de vie, hein? C'est tout à fait différent. On peut avoir une maladie, effectivement, qui n'est pas guérissable, comme certaines maladies neurologiques dégénératives, mais qui va durer des années, en fait. Donc, on est en soins palliatifs, mais on n'est pas en fin de vie. Mais quand on est en fin de vie, on est en soins palliatifs, en fait. Voilà, c'est un peu... mais c'est tout à fait...
Oui. On peut être en fin de vie sans être en soins palliatifs.
Oui. Enfin, bon...
Ça dépend des maladies, oui. Ça dépend des contextes, ouais.
C'est quand la fin de vie? C'est quand le médecin le décide? Est-ce que...
On n'en sait rien.
C'est pour ça que là où c'est problématique, c'est quand... parce que la loi, c'est un peu la même chose que dans la sédation profonde. On dit qu'on va mettre la sédation profonde jusqu'à la fin, quand on est à court terme. Mais, enfin, on a vu des choses vraiment hallucinantes, des gens qui duraient. Donc, il est où le court terme? C'est très difficile. On n'est pas des... On n'est pas des devins, on n'a pas la boule de cristal pour savoir quand s'arrête la vie, en fait.
Et là, je dirais que le piège, c'est de vouloir se saisir un peu de toute puissance, de savoir quand ce sera la fin de vie. Et c'est un petit peu, peut-être, sans parler d'incitation, mais le travers de la société, c'est d'être dans la toute puissance, du jeunisme, et de savoir quand ça va se terminer, où, et est-ce que je peux m'en saisir. Donc la fin de vie, c'est aussi laisser... le mystère du désir de chacun. On voit des personnes qui attendent, ils ne savent pas trop quoi, et en fait, eh bien, c'est la personne qui va venir lui dire au revoir, ou quelque chose qui n'est pas perceptible, et voilà.
Puis il y a des gens qui ont toujours tout maîtrisé dans leur vie et qui veulent maîtriser leur mort, ouais. En fait. Il y a ça aussi.
Et alors, en parlant de personnes qui veulent maîtriser leur mort, vous pointez du doigt ce que vous appelez une contradiction sociétale. Je lis, si le suicide assisté devient un droit, comment donner du sens à la prévention du suicide? Comment déterminer quelle souffrance légitimera ou non le suicide? Comment croire à la solidité des bornes posées par le législateur? Qu'est-ce que ça vous inspire? La question du suicide, c'est la maîtrise fin de vie par excellence. Et quand on fait de la prévention suicide, moi, j'ai, comme ça, de mon jeune âge, j'ai pas la sensation que quand on fait un projet de loi sur la fin de vie, il y a un lien avec la notion de suicide.
Le suicide, pour moi, personnellement, à chaud, c'est un échec au sens de la vie. C'est un échec. La personne, enfin, j'ai creusé le sujet à un moment donné dans ma vie. Ma perception personnelle, là je n'engage pas Jalmal, mais pour moi c'est un échec de sens. Je n'ai plus les moyens, la personne n'a plus les moyens de trouver sens à sa vie et ne trouve plus d'issue. Donc c'est un enfermement en entonnoir. Donc je ne saurais pas en dire davantage. Quand les personnes sont en situation de maladie, c'est autre chose.
Oui, c'est enfin parce que là
c'est autre chose. Oui. On parle de différentes situations pour qui moi, provoquent le suicide.
Ouais. C'est pas tout à fait la même chose parce que enfin là dans le suicide assisté, enfin si on arrive à cette loi, c'est qu'en fait il y a quand même des garde-fous. Enfin c'est pour des maladies qui ne sont pas guérissables et où la personne va en mourir à court terme, en fait. Donc on est bien dans ça. Après, on va peut-être pas faire l'amalgame non plus.
Il faut pas le faire. Il faut pas le faire.
Le texte qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dispose qu'une personne majeure atteinte d'une affection grave et incurable pourra décider, sous réserve de l'accord d'un médecin, de pouvoir mettre fin à son existence si elle estime que ses souffrances physiques ou psychologiques ont atteint un seuil au-delà du supportable et sont inapaisables malgré les traitements. Vous, c'est quoi votre réaction à cet état de fait qui a été voté par l'Assemblée nationale? C'est quoi votre regard sur cette loi, en fait, mesdames?
Personnellement, je le regrette. Personnellement, je n'engage que moi. Personnellement, je regrette que cette loi prenne autant de moyens, de temps, d'argent, alors qu'il y a d'autres sujets d'accompagnement à faire, à développer dans cette société. Personnellement, je regrette.
Alors moi, je pense qu'en fait, il faudrait mieux connaître la loi, les lois précédentes, en fait. Je crois que la plupart des gens, et je pense que la plupart des gens qui sont interrogés par rapport à l'euthanasie ne connaissent pas ces lois. Et quand on parle, enfin, en fait, on en revient, c'est-à-dire que la sédation, c'était ça, en fait. On proposait la sédation à quelqu'un quand il y avait, c'est exactement la même chose quand il y avait effectivement des, quand les symptômes étaient difficilement gérables, quand la personne était, et qu'on n'arrivait pas, en fait, à soulager la personne de ses symptômes. Donc c'est là qu'on proposait, en fait, la sédation. Alors. Profonde ou pas, parce que et aussi les gens ne savent pas qu'il y a plusieurs formes de sédation. On peut avoir une sédation ponctuelle, on peut avoir une sédation qui n'est là que la nuit, qui soulage la personne parfois de ses douleurs la nuit, de ne pas pouvoir dormir la nuit, quoi. Et donc, en fait, on se retrouve un petit peu dans ça, en fait, finalement. Sauf que là, on parle plus de sédation, on parle maintenant de suicide, quoi. La personne pourra mettre fin à sa vie.
Lors de l'adoption de la proposition de loi, et c'est pour ça que je vous posais un peu la question de manière intime, les partis n'ont pas donné de consigne de vote aux députés. Et en tout, si jamais on considère toutes les personnes qui ont voté pour d'un côté et les personnes qui ont voté contre, ou bien se sont abstenues, ou bien n'ont pas pris part au vote, ce sont près de 49% des députés qui n'ont pas voté pour. Cependant, on peut voir quand même des tendances que la droite de l'hémicycle, notamment le Rassemblement National et les Ciottistes, ont voté largement contre ce texte, et que de l'autre côté, la gauche, le Nouveau Front Populaire, les écologistes, eux, ont voté pour. Vous, c'est quoi la lecture que vous avez de cette situation politique? Pourquoi est-ce que la gauche est plus pour ce texte et pourquoi est-ce que la droite est plus contre ce texte?
Est-ce que c'est la question que l'on a soulevée tout à l'heure, que la société évolue et veut se mettre un petit peu à la marge, ou comme les autres pays, peut-être, d'évolution? Ouais. Alors, je vais comparer ça à un autre sujet qui n'a rien à voir, hein, qui est le mariage gay, qui est le mariage, donc, où la gauche était aussi pour ce mariage, pour une évolution des mœurs, une évolution de la société, et donc la droite qui est plus conservatrice. Conservatrice d'un... Je ne sais pas, je n'ai pas regardé politiquement ce que ça sous-tend. Tu as une idée,
Léa? Non, pas du tout. Je n'irai même pas sur ce chemin, en fait.
Ouais,
je n'ai aucune envie d'aller sur ce chemin. Je pense que chacun... Enfin, j'espère que chacun a voté en son âme et conscience, vraiment pour de bonnes raisons. C'est surtout ça. Mais pas pour des raisons politiques.
Et parce qu'on n'aborde pas un autre aspect là qui est important. On n'aborde que l'aspect politique ou sociétal, mais il y a aussi l'aspect spirituel. Qu'est-ce que ça a comme sens?
Eh bien, on vous réinvitera, mesdames, pour en parler. Le temps a filé à une vitesse folle. Merci beaucoup d'avoir été à nos micros sur Radio Campus Angers, Martine Allais et Eliane Brayon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous le rappelle, vous êtes toutes les deux membres de l'association Jalmalve qui accompagne les personnes en fin de vie. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Un immense merci à Kylian à la technique. Demain, on vous présente la programmation du festival Astropolis à Brest, plus grand festival de musique électronique de l'Ouest. Alors surtout, n'oubliez pas, restez sur le Centre FM. Et les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.